Le journal, Valérie Le Nigène, bonjour.
Bonjour.
Des orages, principalement dans le Morbihan, parce que dans le Finistère, aujourd'hui, plutôt du beau temps, ainsi que dans les Côtes d'Armor. C'est un Lorientais qui devrait lever les bras à l'arrivée de The Transat ce soir à New York.
C'est Johan Richom qui devrait l'emporter après 8 jours de course en solitaire dans des conditions dantesques. Et derrière lui, Boris Herman et Samantha Davis. Alors actuellement, la flottille est presque au ralenti en bordure d'une zone de protection des cétacés avant l'arrivée à New York. Arrivée prévue vers 20h heure française, et tout est encore possible car l'avance de Johan Richom est assez réduite. En foot, dernier match de la 32e journée de championnat ce soir entre Lyon et Lille. Et pourquoi on vous en parle? Eh bien parce que c'est un duel qui pourrait avoir une incidence pour Brest. Si les nordistes s'imposent, ils devraient prendre la 3e place et pourraient priver les Bretons de la qualification directe en Ligue des Champions. Un club de foot amateur sauvé par des exilés, c'est le club de foot de Pontcroix dans le sud Finistère qui évolue en 3e division et dont les effectifs périclitaient au point de craindre de mettre la clé sous la porte pour le club. Club qui a réussi à maintenir un effectif suffisant grâce à l'arrivée de jeunes d'origine d'Afrique de l'Ouest qui vivent à Quimper ou à Douarnenez. Aujourd'hui, 26 joueurs évoluent au club qui a même dû ouvrir une liste d'attente. Un exemple de mixité pour Christine Collin, vice-présidente et trésorière du club de foot de Pontcroix.
On était peut-être à deux doigts de... Je veux dire d'arrêter le club. Là, actuellement, donc, on a des jeunes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a beaucoup de Maliens. Des jeunes, donc, on a un jeune de la Gambie, la Guinée équatoriale. Voilà, notamment, c'est ce qu'on a. Et puis, leur coach qui est d'origine camerounaise. Donc, oui, effectivement, on est quand même une belle mixité au niveau ethnique. Voilà, mais c'est vrai qu'au début, c'était un manque d'effectifs. C'est-à-dire chaque joueur a ramené 2 joueurs, 3 joueurs, alors qu'on était en manque d'effectifs et en très très grosses difficultés. Et après, c'est aussi les difficultés quand on rencontre d'autres équipes adverses, parce que malheureusement, ce qu'on se retrouve, c'est comme si c'était les équipes des Blancs contre les Noirs. Or, c'est pas le cas. Ça n'a pas du tout été dans ce cas-là que ça a été fait. Mais malheureusement, beaucoup s'est perçu dans ce sens-là.
L'histoire atypique de ce club de foot et les difficultés liées aussi au racisme au bord du terrain sont à retrouver sur francebleu.fr.
Des inquiétudes économiques dans le secteur touristique.
La pluie pendant les vacances scolaires a mis en difficulté le secteur touristique dans tout l'ouest de la Bretagne et notamment dans le Finistère, avec une baisse d'activité de 20% par rapport aux vacances de Pâques de l'année dernière. C'est ce qu'a observé l'UMI, l'Union des métiers des industries d'hôtellerie. Selon Hubert Jean, à la tête du syndicat dans le Finistère, qui était notre invité en direct ce matin, certains professionnels sont même menacés de liquidation judiciaire. Derrière le masque du berger se cache l'extrême droite turque la plus violente qui puisse exister. C'est cette phrase, dite en conseil municipal à Brest, qui vaut à François Cuyande, le maire, d'être poursuivi par la justice. Le maire de Brest qui est convoqué à 13h30 au tribunal pour une audience de consignation, c'est-à-dire le rendez-vous pour fixer la date du procès pour injure publique. Avec cette phrase, François Cuyande avait mis fin à une intervention d'un militant du collectif des bergers du quartier qui estime que la municipalité de Brest est inactive sur les questions d'insécurité à Brest. Le résumé, les détails de cette affaire sont à lire sur francebleu.fr. Le secrétaire d'État chargé de la mer poursuit sa visite de 3 jours en Bretagne. Hervé Berville, qui était ce matin au chantier naval de Pirée à Concarneau, chantier qui construit actuellement 2 cargos à voile pour le compte de Tote. Tote qui a annoncé récemment avoir trouvé les fonds pour 3 autres cargos, ce qui va porter à 8 la flottille.
Alors que les négociations entre le Hamas et Israël sont au point mort.
Eh bien, le Hamas a fait savoir qu'il n'accepterait aucun accord qui ne prévoirait pas la fin de la guerre à Gaza. Les habitants des quartiers est de la ville sont par ailleurs appelés depuis ce matin, depuis la ville de Rafah, à évacuer. Un appel lancé par l'armée israélienne. Le compte-rendu depuis Jérusalem de Thibault Lefebvre.
Et c'est sous une pluie battante que les opérations d'évacuation de Rafah ont commencé très tôt ce matin, avec d'abord des messages envoyés en arabe et en anglais pour encourager, c'est le mot utilisé par l'armée, la population à quitter la grande ville du sud. Alors l'armée ne parle pas d'évacuation de grande ampleur, mais d'une évacuation temporaire qui concerne des centaines de milliers de personnes. La zone concernée se situe à la lisière du corridor de Philadelphie qui sépare l'enclave de l'Égypte. Les civils sont donc encouragés à rejoindre au nord le bord de mer vers la localité d'Al-Mawassi. Cette opération promise depuis des semaines par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donc été lancée alors qu'encore en fin de semaine, le Hamas et Israël étaient proches d'un accord de trêve. Hier, le point de passage de Kerem Shalom, juste à côté de la zone évacuée et par où transite l'aide humanitaire, a été attaqué au tir de mortier. 3 soldats sont morts. L'opération d'évacuation pourrait durer au moins plusieurs jours. L'objectif de l'armée israélienne est de démanteler les 4 derniers bataillons du Hamas encore opérationnels.
Selon Israël, l'évacuation pourrait concerner 100 000 personnes, tandis qu'un représentant du Croissant Rouge palestinien estime à 250 000 le nombre de Palestiniens concernés. Le gouvernement français a lancé ce matin les assises de lutte contre l'antisémitisme avec la LICRA, SOS Racisme et les représentants des 6 principaux cultes que l'on compte en France. Le nombre d'actes antisémites recensés en France a presque quadruplé l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Le tunnel sous la Manche qui fête son 30e anniversaire, le temps passe, avec une inauguration à Calais le 6 mai 1994. C'était hier la journée mondiale du rire et à Pouldreuzic, dans le sud Finistère, les habitants ont organisé une matinée d'Olympiade du rire. Reportage Simon Cheneau.
Promis, tous les participants sont sobres.
Ouh, ah, c'est un rire hyper puissant.
Odile est l'une des animatrices.
Oh, génial. Mais
bon. Et vous pouvez me certifier que personne n'a pris de drogue ici ?
Oui, absolument. Alors la drogue, c'est de la dope. Ah si, on a pris de la dope avec de la dopamine, sérotonine, l'ocytocine. Ah mais c'est un concentré et on n'a rien à faire.
Rien à faire, sauf rire. Carole Fortuna, professeure de yoga du rire, conseille franchement.
Ça permet de communiquer avec d'autres personnes et pas s'isoler.
Ah, quelle énergie vous avez, hein, ils sont super.
Marie-Hélène est complètement conquise par l'atelier.
Ça détend les rides du visage aussi.
Et vous n'en avez pas du tout, par contre.
Oh, merci. Ah oui, bah, je vais revenir, hein, de toute façon.
Des participantes qui reviendront.
Et merci à vous, madame.
Je vous attends tous les deux.
Ah oui, non, mais avec plaisir.
Hein. Rire un bon coup, aux éclats, à gorge déployée ou jusqu'aux larmes. En tout cas, toujours rire de bon cœur.